Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes en direct sur 48 FM, il est 9h. Tout de suite, votre point sur l'actualité avec Arnaud Van Krombrugge. Bonjour Arnaud.
Bonjour Dorine.
Des agriculteurs bloquent depuis hier soir l'aéroport de Biarritz.
Et c'est toujours le cas ce matin. Garance Hugo est sur place, elle nous en dira plus. Nous sommes en pleine période de Ramadan pour les étudiants musulmans, une période de jeûne qu'il faut concilier avec la vie étudiante. Distribuer les invendus au SDF, c'est possible grâce à Repas sur Roue, une initiative solidaire lancée par Charline. Des dizaines de véhicules sont arrivés hier soir pour bloquer les accès à l'aéroport de Biarritz. Voitures et tracteurs bloquent la sortie des camions de la zone de fret. Selon la Fédération des jeunes agriculteurs, le blocage est prévu jusqu'à ce soir 20h. Garance Hugo, vous êtes sur place. Qu'en est-il de la situation à l'heure actuelle ?
Alors, ce matin, ils sont une trentaine à bloquer les accès aux camions de marchandises. Vous l'avez dit, le blocage a démarré hier soir 20h. Ils étaient alors une centaine d'agriculteurs à se rassembler, selon Maxime Janssens, vice-président de la FJA, la Fédération des jeunes agriculteurs. Une trentaine seulement ont passé la nuit et ce sont ceux-là même qui sont encore présents ce matin. D'autres agriculteurs devraient encore rejoindre le mouvement aujourd'hui. Alors pourquoi ce blocage ici à Biarritz précisément ? Eh bien parce qu'il s'agit là d'un point stratégique d'import-export en Wallonie. Un symbole fort donc pour ces agriculteurs et agricultrices en colère. Une vingtaine de tracteurs bloquent trois entrées stratégiques au site, les deux ronds-points donnant accès à la zone de livraison ainsi que l'entrée du géant FedEx. Le long des routes, on peut voir des dizaines de camions en stationnement qui attendent la fin du blocage prévu, vous l'avez dit, pour 20h ce soir. Aucune tension n'était à signaler, à l'exception peut-être de deux ou trois camions qui ont tenté de forcer le barrage, mais rien de plus. D'autant plus que les agriculteurs veillent également à laisser passer les travailleurs qui partent en voiture, ainsi que les riverains. Alors en ce qui concerne les revendications des jeunes agriculteurs, eh bien je vous propose d'écouter à ce sujet Raoul, 21 ans. Il est étudiant en agronomie à l'Uliège Jean Blou et petit-fils d'agriculteur.
De nos jours, ça devient de plus en plus compliqué de reprendre une exploitation. On n'a, entre guillemets, plus aucune garantie dans les prix, etc. Tout fluctue. Et donc, c'est difficile de se projeter, sachant que de plus en plus, les risques augmentent, puisqu'il faut, il y a de plus en plus de coûts pour se lancer, justement. Et donc, voilà, il y a un manque de garantie. Et ces garanties, ça passe par plusieurs choses, dont toutes les revendications qu'on a depuis le début, là, avec des prix plus justes, des prix où on nous empêche en tout cas de perdre, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et en tout cas, par exemple, par rapport à l'étranger, bah, une concurrence moins déloyale qu'actuellement, et ça passe justement par le libre-échange que pratique l'Europe.
Merci Garance pour toutes ces précisions. Depuis ce lundi, la communauté musulmane est entrée dans la période du Ramadan, 9e mois du calendrier égyrien. Ce mois est considéré par les musulmans comme le mois saint par excellence, un mois qui demande aussi de l'organisation pour les étudiants. Farah, étudiante de master à HEC, est présidente du Cercle des étudiants musulmans.
Il faut savoir que le mois du Ramadan est un moment exceptionnel de l'année. C'est un mois que j'attends chaque année avec impatience. Et à l'arrivée de ce mois, chaque année, j'essaie de organiser mes journées pour en profiter un maximum. Le jeûne commence aux alentours de 5h du matin et se termine vers 18h30. Et la dernière prière se fait aux alentours de 20h30. Par exemple, je vais utiliser plus efficacement mon temps pendant le Ramadan. Je vais essayer de consacrer les heures les plus productives de la journée à mes études ou à mon travail, en gardant à l'esprit que mon niveau d'énergie peut bien sûr fluctuer pendant le jeûne.
Et alors qu'il constitue l'un des cinq piliers de l'islam, le Ramadan ne se résume pas uniquement à la privation de nourriture et de boissons. Il ne s'agit là que d'un aspect du jeûne.
C'est un mois qui nous permet de prendre conscience qu'il est possible de se priver de choses qui au départ nous paraît indispensable. Et en jeûnant, le riche sent la faim comme le pauvre. Et c'est un mois de partage, c'est un mois de recueillement et de contrôle de soi. C'est un mois où on se rappelle davantage qu'avoir un bon comportement est un acte de bien, qu'un simple sourire est une aumône, qu'il faut être au service des autres et il faut fournir un travail de qualité, que ce soit à l'école ou même au travail.
Et pendant que certains peuvent manger à des périodes déterminées, d'autres n'ont au contraire pas cette chance. À 23 ans, Charline Bello s'est lancée dans un projet social intitulé « Repas sur roue ». L'objectif, distribuer à vélo les invendus des restaurants au sans domicile fixe de Liège. Dorine Donati l'a accompagnée lors d'une de ses maraudes.
Bonjour, excusez-moi, j'ai un repas pour vous, ça vous dit ? S'il vous plaît, c'est une soupe marocaine avec des lentilles. Bon appétit.
Sensible à la cause pour les personnes de la rue, Charline Bello a fondé Repas sur roue, un projet qui a deux objectifs en ligne de mire, lutter contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire.
L'idée de Repas sur roue, c'est de venir chercher les repas invendus pour les donner aux sans-abri. Donc il y a vraiment ce côté anti-gaspillage. Et ensuite, les partenaires restaurants, il faut avoir les contenants, parce que je donne les contenants pour pas que ce soit leurs frais.
Quartier Guimain, Opéra, Saint-Lambert, Charline parcourt la cité ardente avec son vélo depuis février dernier.
Je me suis rendu compte que le système scolaire, ça marchait pas avec moi, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai démarré Repas sur roue. Ça m'est venu dans la voiture avec mon papa, on écoutait la radio et il y a quelqu'un qui se présentait et qui faisait ce projet-là, donc un concept de maraude à Bruxelles avec un vélo cargo. Il a créé son ASBL et je me suis dit, c'est trop cool.
Ça s'appelle Repas sur roue, peut-être qu'on se reverra.
Merci.
À noter que le dernier recensement de la Croix-Rouge fait état de plus de 500 sans-abri dans les rues de la Cité Ardente.
Il est 9h07, vous écoutez toujours 48FM.
L'ASBL La Lumière organise ce jeudi 14 mars sa journée de la basse vision. Planifié tous les deux ans en région liégeoise, cet événement phare, entièrement gratuit, s'adresse à toutes et à tous, Marine.
Oui Arnaud, que vous fassiez partie du grand public ou que vous soyez un pro de la basse vision, ophtalmologue, opticien, personnel soignant, quelqu'un qui vit la basse vision au quotidien ou en proche, cette journée est faite pour vous. Au programme, une exposition de matériel adapté, des échanges et des mises en situation. Lynn Brasseur, chargée de communication de l'ASBL.
Il va y avoir plusieurs stands auprès desquels se tiendront des experts de la lumière, que ce soit des experts de la basse vision, donc qui expliqueront à quoi sert le matériel, comment l'utiliser, quelles sont les possibilités offertes à tout public et surtout qui peuvent être individualisées en fonction des problèmes de chacun. Et puis, on aura aussi des stands auprès desquels se tiendront nos ergothérapeutes qui, eux, donnent des solutions quotidiennes aux personnes malvoyantes pour les aider à faire à manger, à se maquiller. Et puis, on a tous les autres services de la lumière qui seront aussi disponibles pour répondre aux questions des personnes présentes.
Depuis plus de 100 ans, la lumière suit régulièrement pas moins de 1350 personnes, parmi lesquelles des étudiants. Elle désire jouer un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes malvoyantes pour les aider à maximiser leur potentiel visuel et à améliorer leur qualité de vie.
C'est de leur permettre d'acquérir plus d'autonomie dans leur quotidien, d'être plus inclus dans la société. Pour nous, l'inclusion, c'est la base. Donc, dès le départ, dès la naissance, on stimule le jeune enfant pour qu'il puisse avoir accès à un enseignement ordinaire, faire une scolarité classique et aller jusqu'à l'université. On les aide aussi à trouver du boulot après. Donc, ils viennent téléphonistes, masseurs, juristes, notaires. Enfin, on a vraiment toutes sortes de profils, psychologues. Et aussi l'épanouissement, parce que on ne peut pas parler d'inclusion dans la société sans qu'il y ait aussi l'accès aux loisirs, au sport, à la culture.
Et les résultats sont concluants puisque Lucie et Simon, deux étudiants universitaires accompagnés par l'association, ont par exemple réussi leur première année de bac, respectivement en droit et en communication. Du côté de l'international, aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden sont tous les deux assurés d'obtenir l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle de novembre.
Ils ont à présent remporté assez de délégués lors des différentes primaires selon des estimations de médias américains. Le président sortant Joe Biden a franchi le seuil des 1968 délégués nécessaires en remportant la primaire démocrate de Géorgie. Du côté de Donald Trump, sa victoire dans l'État de Washington lui a permis de franchir la barre des 1215 nécessaires pour décrocher l'investiture du parti républicain. Les deux hommes s'apprêtent ainsi à refaire le match de 2020 en s'offrant pour les mois à venir un des plus longs face-à-face électoraux de l'histoire américaine.
Et une pétition a été lancée pour obtenir la conservation du numéro de bus 48 vers le Sartilement.
Au début de l'année 2025, il est en effet prévu qu'une ligne de bus à haut niveau de service appelée Busway B2 remplace la bien connue ligne 48. Au départ du groupe Facebook Liège Confession, une pétition a été lancée pour réclamer le maintien du numéro de la ligne de bus 48 qui relie depuis des années l'Opéra au CHU et qui transporte la communauté universitaire dans tout le domaine du sartillement. Si dans les commentaires des signataires on retrouve beaucoup de second degré, la pétition a tout de même déjà dépassé les 1800 signature.
Et on vous l'annonçait hier, l'équipe de hockey sur glace de la ville de Liège, les Bulldogs, rencontrait les Uniflyers de Heerenveen. Un match qu'ils ont remporté haut la main. Une victoire éclatante qui permet aux Liégeois de se qualifier pour les demi-finales de la Bene League. Nous étions dans les gradins. L'ambiance était électrique hier à la patinoire de Liège dans le cadre des qualifications pour la demi-finale de la Bene League. Les Bulldogs de Liège recevaient les Uniflyers d'Heerenveen et se sont imposés 6 à 3 après un match que les Bulldogs ont survolé avec des fans qui s'étaient déplacés en nombre pour supporter les Liégeois. Si pour les Bulldogs, cette victoire est amplement méritée, pour Jean-Pierre Bourdoux, team manager des Bulldogs, cette victoire n'était pas forcément évidente.
On a déjà eu plusieurs fois ce cas de figure où on est chez nous, on se fait un peu dépasser et puis on est obligé de gagner chez eux et de regagner chez nous. Donc c'est un peu de pression, un gros coup de pression supplémentaire. Je pense que la pression, ils l'ont gérée à merveille et qu'ils ont montré ce soir de quoi ils étaient capables. Donc.
Mais si les Liégeois sont dans une très bonne lancée, il ne faudrait pas se faire surprendre en demi-finale.
Ah ben, j'espère d'abord prendre les demi-finales. Donc on va commencer samedi. On ne sait pas encore ce soir contre qui on va jouer, Dietz ou Gelen. Donc on attend les résultats et on se préparera en conséquence. Et si on joue comme ce soir, je ne vais pas dire que je ne serai pas trop inquiet parce que je le suis toujours, mais je suis confiant.
Rendez-vous donc ce samedi pour poursuivre les aventures de notre équipe liégeoise.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.